à bord d'Alter Echo, Olivier au micro comme toutes les semaines. Alter Echo, c'est évidemment tous les mercredis soirs à 22h, rediffusion sur Radio Campus toujours 107.2 FM à Bruxelles le vendredi à 14h. Nouvelle rediffusion sur Panique 105.4 le lundi matin à 10h. Et bien évidemment, toujours le site d'Alter Echo, www.multimania.com/alterecho en un seul mot et avec CH. Le site a été interrompu pendant quelques jours, mais il n'y paraît plus. Il est rétabli. Cette semaine, les laboratoires audio d'Alter Echo ont connu de nombreux contretemps techniques. Une des interviews programmées pour ce soir a tout simplement été perdue et les autres ont été récupérées in extremis, ce qui fait que certains sons seront d'une qualité audible mais néanmoins douteuse et que vous aurez droit à un long morceau de musique entre les deux sujets du jour. Pour commencer, je vous l'avais promis la semaine dernière, une interview d'un membre du collectif Santiquet qui va nous expliquer le but de la démarche. Le second sujet sera une exclusivité Alter Echo, une interview de Vincent De Crolly, le député écolo qui a semé la zizanie dans la majorité gouvernementale la semaine dernière. Il nous expliquera pourquoi.
Du collectif circule actuellement sur le réseau pour vérifier où sont les contrôleurs et pouvoir informer les usagers. Pour garantir qu'il n'y a pas actuellement de contrôle ici la gare du Midi. Donc si vous n'avez pas de ticket de transport, voyagez tranquille. Dans notre action, parce que nous défendons l'accessibilité du transport public pour tous. Voilà. Souhaitons une bonne après-midi. Vous avez plus de détails sur le collectif, sur le petit dépliant. Nous menons actuellement une action anti-contrôle. Des équipes de patrouilleurs du collectif circulent sur le réseau pour voir où se trouvent les contrôleurs et donc nous pouvons actuellement garantir zone libre jusqu'à la gare du Midi. Il n'y a pas de contrôleur jusque là. Nous menons cette action parce que nous défendons l'accessibilité du transport public pour tous. Alors, nous circulons généralement sur le réseau en utilisant une carte. Nous avons fait une carte de grand transport, donc il y a une carte de refus de paiement. Vous avez les explications sur le petit dépliant. Je vais tourner dans l'après-midi.
Vous l'aurez évidemment compris, vous venez d'assister en différé à l'une des fameuses actions Free Zone du collectif Santiquet, cette bande de jeunes qui milite de façon pratique pour la gratuité des transports en commun. La semaine dernière, je vous avais parlé du procès en référé que leur intentait la STIB pour essayer d'obtenir que la justice interdise aux membres du collectif de prendre la parole et de distribuer des tracts sur son réseau. L'atteinte à la liberté d'expression guette sournoisement. Mercredi dernier, je n'étais pas en mesure de vous diffuser l'interview de David, qui est membre du collectif et qui devait nous expliquer toute la démarche qui sous-tend ses actions. Les dégâts ont été réparés entre-temps. Voici donc cette fameuse interview.
Le collectif Santiquet est né il y a plus ou moins 3 ans autour d'un problème relativement concret qui était pour différentes personnes, essentiellement chômeurs, travailleurs précaires, à pouvoir tout simplement se déplacer. Donc on se situe grosso modo après le mouvement des chômeurs français qui a été relancé vers 97-98 ici par différents groupes de chômeurs dont le collectif, c'est à partir de là que le collectif Santiquet est né. Donc on a lancé une carte de droit au transport, sorte d'abonnement autonome qui nous permettait de nous réapproprier directement l'usage de nos déplacements et créer un autre rapport à celui-ci, plus enclin à s'ouvrir sur la question d'une discussion et d'une coopération entre usagers et travailleurs.
Donc c'est un faux abonnement qui est entièrement gratuit, hein, précisons-le.
C'est un abonnement autonome, autoproduit, qui n'est reconnu par ni la SNCB, ni par la STIB, en fait par personne. Sinon ceux qui l'utilisent et qui considèrent que sortir pour certains d'une logique clandestine de la fraude et de se mettre en collectivité pour faire avancer l'un ou l'autre problème est quelque chose qui devient à un moment donné vital. Pour d'autres, ils l'utilisent avec leur titre de transport valable. C'est une manière d'ouvrir un débat avec ceux ou celles qu'ils rencontrent en première ligne, c'est-à-dire les agents soit de contrôle, soit, comme ils appellent à la SNCB, les accompagnateurs de train. Donc, à un moment donné, vers plus ou moins un an maintenant, on a réorganisé notre pratique autour, disons, de ce qu'on est plus habitué, c'est-à-dire l'urbain, la dimension urbaine, c'est-à-dire essentiellement sur la TEC à Liège et la STIP à Bruxelles. Autour, à Bruxelles, de trois interventions particulières, trois dispositifs, comme on appelle. La première est une intervention plus ou moins directe, qui sont les opérations Free Zone. Opérations Free Zone qui consistent simplement à essayer de créer un minimum de coopération, de micro ou de gestes de micro-solidarité dans le transport public bruxellois, essentiellement dans le métro et le tram suburbain. Ça passe comment? Par une mise sous cloche du travail des contrôleurs. Concrètement, il y a une équipe qui cherche des contrôleurs. Une fois qu'ils les ont débusqués, ils informent par GSM à d'autres équipes qui sont dans le métro ou les trams, qu'à telle station, à Simonis ou Port-de-Halle, il y a des contrôles qui sont en train de s'effectuer. À partir de là, ils informent les usagers. Au même moment, c'est une sensibilisation par rapport à toutes les questions qui nous intéressent, c'est-à-dire les questions d'une appropriation du service public, les questions d'environnement, les questions de revenus.
Les gens réagissent comment en général à ces actions dans le métro?
Le fait qu'on continue maintenant depuis, là ça fait 8 mois, d'une manière très régulière à le faire, c'est parce qu'il y a justement un répondant qui est très fort. Il y a des sourires, il y a des discussions qui s'ouvrent, il y a grosso modo un espace public qui se crée là où certains gestionnaires ont plutôt la volonté de le fermer, le cloisonner. Et donc ce côté-là, ce type de réponse directe à ce type de manifestation non commerciale, en fait, apporte plus de joie que de tristesse, qui fait que ça nous donne plus envie de continuer et de relancer. Bon, maintenant, il y a des free zones qui sont moins intéressantes que d'autres. Il y a des free zones où, comme celle qu'on a fait jeudi dernier, qui était vraiment très agréable. Mais ça dépend si chaque fois les heures où on le fait. Quand on le fait à 16 heures, on tombe sur les salariés qui rentrent du travail. Il y a un type de rapport qui est complètement différent que si on le fait, par exemple, à 18 heures ou 20 heures, où là il y a un autre type de population qui, grosso modo, est beaucoup plus enclin à entendre et à parler, parce que c'est des problèmes qui les touchent plus directement.
La revendication, ça se limite à une gratuité des transports ou bien il y a des choses derrière?
Non, pour nous, la question de la gratuité du transport est une hypothèse de travail et un levier pour repenser les politiques de ville en règle générale. Donc c'est une manière, disons, une façon très incitative pour faire un transfert des bagnoles vers les transports publics, pour repenser un aménagement du territoire qui soit plus centré sur les gens ou les habitants qui y vivent, sur évidemment toutes les questions de combat des pollutions et des nuisances produites par le transport individuel, personnel, essentiellement créé par les voitures. Donc à partir de ça, c'est toute une tentative d'ouvrir, ou plus exactement de booster un problème que tout le monde connaît, c'est celui-là des questions environnementales, des questions d'aménagement du territoire, des questions d'accessibilité, de transport ou de déplacement. Et c'est ça que nous, on essaye de faire. C'est simplement que ces problèmes-là soient pris en compte maintenant et pas dans 150 ans, comme les gestionnaires sont très rapides. Il faut à des moments un peu essayer d'accélérer le mouvement Et parce qu'il y a certaines limites qui ne peuvent plus non plus attendre éperdument.
À Celt, il y a des transports en commun gratuits, ça se passe apparemment assez bien, ce serait un exemple à suivre.
C'est un laboratoire qui est en tout cas très intéressant à analyser pour pouvoir non pas le transférer parce que à Celle c'est 80 000 habitants, mais en tout cas pour donner des idées. C'est une boîte à idées à Celle quand on voit que en 4 ans les transports publics sont passés de 26 000 personnes à 314 000, qu'on voit qu'il y a une augmentation du triple des visites dans les pensionnats, dans les homes, etc., etc. Donc il y a toute une socialisation aussi qui est produite par en fait un accès libéré au transport public. C'est ça qui nous intéresse très fortement aussi dans cette question-là, mais là on ne pourrait le voir que le jour où ça sera le cas. C'est en fait qu'est-ce que ça va développer comme ou libérer comme forme d'expression, comme forme de déplacement qui sont pour l'instant étouffées.
Pour en revenir aux actions sur le terrain, on se doute évidemment que ça plaît moyennement à la STIB. Elle vous a intenté un procès sur le fond pour ce qui s'était déjà passé et elle essaye aussi de vous en référer, de vous faire condamner à des astreintes pour éviter des opérations futures.
Oui, donc ils veulent grosso modo nous empêcher de parler et d'écrire ou enfin de faire tout ce qu'on fait actuellement. Ils veulent grosso modo nous mettre au silence, nous bâillonner. Et pour ça, ils demandent aux juges, sous des motifs ou nous qualifiant d'association de malfaiteurs, faux usage de faux usurpation de fonction, etc., une dizaine de qualifications de ce type-là. Ils demandent aux juges de nous mettre des astreintes de 5 000 francs pour tout acte qu'on poserait sur le réseau STIP, que ça soit une parole échangée avec les usagers, que ça soit avec le personnel, que ça soit une édition de tract ou ne fût-ce que d'avoir la carte de droit au transport sur soi
C'est un peu contraire à la liberté d'expression, tout ça, non?
et du droit d'association en plus de ça. Oui, tout à fait. Ils vont sur ce chemin-là. Disons que ce serait une jurisprudence très négative pour toute personne qui pense qu'intervenir dans l'espace public a quelque chose comme de l'intérêt et qu'il y a moyen dans une démocratie de la transformer par le bas en jouant en dehors ou à côté des formes instituées classiques. Et à partir de ce moment-là, si ce jugement passe, il y aura une restriction assez forte de ces droits-là.
Il y avait des chefs d'inculpation complètement débiles, parce qu'il y a quand même pas mal de gens du collectif qui voyageaient avec un titre de transport valable, et il y en avait là-dedans qui étaient traînés en justice pour avoir voyagé avec une salopette blanche et des trucs comme ça, un peu surréalistes.
Oui, mais disons que vraiment, pratiquement, ils ont rien. Ils ont, comme tu dis, des gens, 4 personnes qui sont pour des histoires parce qu'ils sont simplement en salopette blanche, d'autres parce qu'ils ont des tracts sur eux. Etc., etc. Ils ont rien en termes de faits, mais après ils enrobent tout ça d'un discours que nous provoquons de l'hémorragie, des pertes financières énormes, etc., etc. Et qu'on ait une nuisance très forte pour eux. Donc c'est grosso modo, si le juge qu'on sait ne pas être très de gauche n'est peut-être pas très attentif au pourquoi de notre intervention. D'ailleurs, on ne lui demande pas de venir dans une free zone, mais de juger par rapport au droit. Si elle s'en tient au droit, normalement, la STIP se casse la gueule. Mais bon, on sait très bien qu'il y a déjà des choses assez débiles qui sont passées au niveau de la justice.
Le déguisement de tout le monde en gangster des années 30, mafieux, c'était justement pour le chef d'inculpation d'association de malfaiteurs?
Oui, c'était pour mettre un peu de dérision et un peu à la limite, et de montrer un peu leur débilité vis-à-vis de ces termes-là. Donc, c'est bon, association de malfaiteurs, maintenant on entend ce mot régulièrement, c'était le resituer quelque part dans un contexte, donc d'une manière très visible, et en même temps d'intervenir dans un lieu dans un des dispositifs quand même relativement massifs du pouvoir qu'est la justice, sur une note un peu de biais humoristique, gai, de joie plutôt que d'être d'aller là-dedans avec une mine patibulaire, et se faire trop chier. Donc c'est aussi d'intervenir dans ce genre d'espace avec un certain style et pas se faire écraser sur l'esthétique de ce monde-là qui est plutôt froid et glacial, quoi. Ben, autant essayer de maintenant de se réapproprier un peu cet espace et créer une forme de jurisprudence de la rue qui soit un peu plus festive.
Pour terminer, où en est le procès pour le fond et comment ça se présente?
Mais le procès pour le fond, on n'en sait rien parce qu'il est en instruction. Donc tout ce qui est, c'est que bon, il y a eu cette perquisition, etc. Là, il y a eu des convocations au niveau de la gendarmerie, enfin de la police fédérale métro. Convocation, on n'a pas été. On a renvoyé une lettre type et collective. Donc ça a été renvoyé chez le juge d'instruction. Pour l'instant, on en est là. Donc l'affaire sera soit classés, soit ils vont poursuivre, mais ça, on sera simplement dans plusieurs mois.
Et le jugement référé risque d'avoir de l'influence sur le jugement sur le fond, mais c'est totalement séparé.
Il risque d'avoir quand même quelques conséquences, oui, même si au niveau du droit, c'est séparé, mais ça risque d'avoir des conséquences. Mais en tout cas, ça va avoir une conséquence directe parce que ce qu'on gagne ou qu'on perd, si on gagne là-dedans, la STIP, à un moment donné, pourra plus éviter d'essayer de faire taire ce débat. Ils vont devoir le prendre à bras-le-corps, avec nous ou sans nous. Mais ils ne peuvent plus continuer à gérer une situation comme ils la font maintenant. Ils vont devoir s'ouvrir un peu plus. C'est marrant quand on voit cette boîte qui est dans les cours de management citée comme une des références en termes de communication, etc., etc. On voit qu'en interne, déjà, cette communication ne passe absolument pas et qu'en externe, en dehors de ce qu'il leur semble être intéressant pour eux, c'est-à-dire d'essayer de mobiliser une population qui est ou des usagers qui sont relativement captifs. En dehors de ça, il n'y a rien qui les intéresse. Donc, si là, il va falloir grosso modo qu'ils changent leur fusil d'épaule s'ils perdent. De toute façon, nous, on va faire tout en sorte pour que les problèmes qu'on pose, en tout cas au minimum ceux de la gestion de la fraude, sous lequel ils peuvent avoir directement une prise, ils commencent à modifier ces logiques-là, qu'ils arrêtent d'être dans une politique de répression et de contrôle des populations et d'être dans un rapport complètement disciplinaire vis-à-vis des gens, parce que grosso modo, la fonction même du contrôle étant de garder un taux de fraude raisonnable, et c'est tout. Et pour rappeler aux gens, faites attention, vous devez payer. C'est la même fonction que le prof nous demandant notre carnet de classe, là, ou je sais plus comment ça s'appelait, nous sanctionnant quand on ne fait pas notre devoir. Donc, ils ont une fonction disciplinaire, ça montre à quel niveau ou comment ils prennent les gens pour de la merde. Leur discours, il est celui-là. Et c'est le discours par lequel ils nous attaquent aussi, en prenant les gens, comme nous, grosso modo, on trompe les gens avec un discours paternaliste que eux, ils sont là pour les protéger. Comme si les fraudeurs, ou tous ceux qui payent occasionnellement, ou qui, quand ils ont un boulot, etc., etc., tous ceux qui se débrouillent, pour voyager, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils sont pas plus cons qu'un autre, et il y a une connaissance et un savoir, chez les gens qui est plus à mettre en valeur qu'à écraser ou à enfermer derrière un discours du 19e siècle. Je sais ce qui est bon pour ces gens-là.
Dans le procès en référé pour lequel la STIB invoquait l'extrême urgence, il n'y a toujours pas eu de prononcé après bientôt 2 semaines. Comprenne qui pourra. À noter que la nébuleuse des divers collectifs mène en ce moment une action d'un tout autre type. Samedi dernier, à l'issue d'une street party au quartier Léopold, le collectif Bruxelles a occupé la gare du Luxembourg, juste devant le Caprice des Dieux, le gigantesque repère de l'Union européenne. La gare existe toujours, mais l'ancien hall et le buffet tombent plus ou moins en ruine. Malgré le fait que la façade soit classée, de funestes projets immobiliers menacent ce petit bâtiment plein de charme. Nous aurons l'occasion de faire le point sur cette occupation en long et en large lors d'une prochaine émission. Mais en attendant, sachez qu'un programme culturel chargé est proposé par les occupants de la gare. Jeudi soir, le 18 octobre à 20h, ce sera un concert de Claude Semal. Le samedi 20, toujours à 20h, une projection suivie d'une discussion sur l'avenir du quartier européen. Le lendemain à 16h, dimanche donc, concert de Manuel Fernandez et Jean-Claude Salemi, concert voix et guitare. Lors de chaque activité, vous pouvez aussi profiter des excellents mets naturels de la table d'hôte et des livres et des brochures d'information de l'Infothèque. Et ce n'est que le début, puisque l'occupation de la gare doit durer au moins jusqu'à la mi-décembre, lorsque se tiendra à Bruxelles le sommet de clôture de la présidence belge de l'Union européenne.
Thank you.
Fin de la semaine dernière, Guy Verhofstadt présentait au Parlement, comme chaque année, sa déclaration de politique gouvernementale. D'habitude, les députés de la majorité viennent soutenir la politique du gouvernement et ceux de l'opposition montent à la tribune pour la tailler en pièces. Cette fois-ci, surprise, un député écolo, donc de la majorité, est venu tenir un discours d'opposition. Pour Vincent de Crolly, la politique menée par le gouvernement est désormais aux antipodes du programme de son parti et il a donc annoncé à l'issue d'une longue déclaration bien sentie qu'il quittait la majorité de Verhofstadt. Du coup, les spéculations ont fusé. De Crolly quitterait le Parlement. Selon d'autres, c'est la porte d'écolo qu'il claquerait. Gros trouble aussi au sein même du parti qui hésite à mettre à la porte un membre aussi populaire qui clame haut et fort des vérités qui font aussi mal. Le mutisme qu'a observé Vincent de Crolly depuis lors n'a évidemment rien clarifié. S'il refuse pour l'instant toute interview à la presse traditionnelle, Vincent de Crolly n'en est pas moins un homme de goût et il a donc accepté de se confier en exclusivité à votre serviteur, principalement sur ce qui lui déplaît dans la politique gouvernementale.
Vous avez surpris pas mal de monde l'autre jour au Parlement en donnant une grande tirade contre le gouvernement Verhofstadt et Guy Verhofstadt en particulier. Quels étaient principalement les points qui vous ont dérangé et qui vous ont poussé à intervenir au Parlement?
Mais je pense qu'il y a d'abord et avant tout l'extraordinaire enthousiasme du Premier ministre pour ce qu'il a appelé le modèle de société libre, tolérante, démocratique et ouverte que nous avons, et à l'appui duquel il a estimé que nous devions plus travailler pour susciter davantage d'adhésion dans le monde. Tout cela dans le cadre d'un début de bombardement massif de l'Afghanistan. Je trouve que c'était vraiment une goutte qui a fait déborder le vase. On ne peut pas simplement, comme Berlusconi hier ou comme d'autres fous, considérer que notre société soit démocratique, libérale, ouverte et tolérante. C'est déjà contestable en soi. Mais en plus, estimer qu'elle a un problème d'image et qu'il faut tous travailler ensemble pour susciter davantage l'adhésion à travers la planète, qu'est-ce que c'est sinon affirmer une espèce d'immense complexe de supériorité de notre part? Je ne peux absolument pas souscrire à ça, et certainement pas sur fond de bombardement massif en Afghanistan.
Mais justement, avant d'en arriver à l'actualité brûlante, c'est-à-dire les problèmes de guerre, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Qu'est-ce qui se trouvait déjà dans ce fameux vase?
Je crois qu'il y a une série d'autres problèmes qui touchent en fait à la capacité que les socialistes et les écologistes n'ont pas eu de marquer les 2 années qui viennent de s'écouler et certainement pas de marquer la déclaration gouvernementale de rentrée politique de M. Verhofstadt. Vous savez, nous sommes élus, eux comme nous, sur un programme qui fait de la réduction des inégalités sociales un objectif absolument fondamental, fondateur pour nos deux partis. Alors quand on voit par rapport à cela que finalement la seule augmentation qui est programmée pour les personnes minimexées, donc des personnes qui sont environ 83 000 dans notre pays et qui vivent avec environ 22 000 francs par mois, la seule augmentation qu'on leur concède c'est 4%. Faites le calcul, ça fait quelques 800 francs par mois et un peu moins ou un peu plus de 10 000 francs supplémentaires par an. Et l'autre versant du compromis, d'un compromis qui est présenté comme équilibré par M. Verhofstadt, c'est la suppression des 2 taux supérieurs d'imposition des grosses fortunes, ce qui veut dire que pour ces personnes-là, c'est pas 10 000 francs en plus par mois, mais parfois 20, 30, peut-être plus. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les inégalités augmentent, ça ne veut pas dire qu'on va vers plus de redistribution, ça ne veut pas dire qu'on fait jouer à la fiscalité son rôle en termes de justice sociale, ça veut dire qu'on tolère avec toutes sortes d'alibis et d'enrobages de communication politique et de propagande, que dans notre pays, alors que des marges de manœuvre se sont libérées du fait de la conjoncture depuis le début de la législature, alors qu'on a fait croire aux gens, surtout il y a un an, que beaucoup de choses allaient être de nouveau possibles, alors qu'on fait croire aux gens que le refinancement de la communauté française et une série de données vont rouvrir un certain nombre de perspectives, le véritable message qui passe, c'est d'abord un message de renforcement des inégalités sociales. Je ne peux pas le tolérer, je suis élu sur un programme qui programmait exactement l'inverse. Alors bon, évidemment, le programme des écologistes, c'est le plus beau programme sur lequel, à mon avis, ou l'un des plus beaux programmes sur lequel, à mon avis, il n'ait jamais été donné à un élu d'être délégué au Parlement. Et je suis tout à fait d'accord avec l'idée qu'on ne peut pas avoir tout de suite. Un programme comme celui d'Écolo est un programme très ambitieux. C'est un programme qui doit évidemment s'étaler sur plusieurs législatures, voire sur plusieurs générations. Donc, pas de problème avec l'idée qu'il faille des compromis, qu'il faille des concessions, qu'il faille un étalement dans le temps d'un certain nombre de résultats et de réformes. J'ai aucun problème avec ça. Mais là où je mets un veto fondamental, et c'est ce que j'ai exprimé, c'est dans le fait qu'aujourd'hui, nous sommes socialistes et écologistes, confrontés au Parlement, à des partenaires démocratiques qui font de recul essentiel sur des aspects fondamentaux de notre programme, un de leurs objectifs. Autant je reconnais leur légitimité en tant que parti démocratique à exercer toutes les pressions possibles pour favoriser la mise en œuvre de leur programme, autant je ne leur reconnais pas le droit de l'imposer au détriment de celui sur lequel nous, écologistes et nous, socialistes, nous avons été élus. C'est extrêmement important du point de vue de la culture politique et de la représentation que les gens se font du politique aujourd'hui, qui est finalement un des nœuds sur le plan de la crédibilité des institutions démocratiques et de la démocratie elle-même. C'est extrêmement important qu'on sorte d'une espèce de fatalisme dans lequel des partis disent blanc avant les élections, ils concoctent au moment de répartir les postes gouvernementaux, un programme, disons, gris. Et une fois que les alliances sont scellées, verrouillées, que les habitudes sont prises, eh bien, on accepte des réformes noires. C'est ce qui est intuitivement perçu par énormément de gens dans notre société, et c'est ce qui fonde le problème essentiel et extrêmement grave du discrédit du politique dans notre pays. Je pense qu'aujourd'hui, des députés écologistes, des députés socialistes, pour ne citer qu'eux, mais je veux parler de l'ensemble des députés démocrates, doivent apprendre non pas seulement à composer, à passer des compromis, c'est évidemment essentiel, mais ils doivent surtout apprendre à ne jamais oublier le programme sur lequel ils ont été élus. Ce mandat-là, c'est de l'or. On ne peut pas négocier ces choses-là. Un programme, c'est quelque chose vers quoi on doit tendre. Et à partir du moment où on est dans une majorité qui nous impose des reculs essentiels sur des points capitaux de ce programme, eh bien, on doit en tirer les conclusions, et c'est ce que j'ai tenu à faire.
Mais donc il y avait aussi un point essentiel. En fait, quand on regarde les médias, on a l'impression qu'une déclaration devant le Parlement, c'est très court, mais finalement, vous avez abordé vraiment beaucoup de points, et la seule que la RTBF, il me semble, avait retenue, c'était des questions de droit d'asile et d'immigration. À ce point de vue-là, effectivement, le chapitre qui portait là-dessus dans votre intervention était assez long, mais vous citez certaines choses qui sont effectivement très choquantes. Il y avait par exemple l'expulsion ethnique d'un certain nombre de Roms, si je ne m'abuse, en octobre ou en novembre 99, au moment où les écolos étaient déjà au gouvernement. Vous citez également une étude commandée par Verheugen au tout début de sa législature, et je crois que de la législature, je crois qu'il en avait même déjà parlé avant d'être élu, sur la conjonction entre immigration, entre jeunes immigrés et criminalité. Toutes ces choses-là sont là depuis le début et devraient quelque part être inacceptables pour l'écologiste que vous êtes. C'est peut-être les gouttes qu'il y avait dans le vase, mais est-ce que ce n'était pas déjà dès le départ très mal parti ?
C'était déjà extrêmement mal parti, mais j'ai pris conscience depuis quelques semaines que ce qui était programmé était encore plus grave. Encore plus grave parce que finalement, vous savez, les enjeux du droit des étrangers, du droit d'asile et de la politique migratoire de façon générale, ce sont des enjeux où se croisent des questions essentielles comme la tolérance vis-à-vis de la personne différente et le respect de la personne la plus vulnérable dans notre société. Et ça, ce sont des questions essentielles. Je ne suis pas particulièrement motivé sur ces questions de droit des étrangers par amour immodéré des personnes étrangères. Je trouve que c'est un enjeu fondamental aujourd'hui qui est digne peut-être de ceux qui touchaient à l'émancipation des travailleurs ou à la conquête du suffrage universel sous l'Ancien Régime. Je pense vraiment que la question du droit des étrangers, la question de la libre circulation des personnes, la question de la tolérance vis-à-vis du plus vulnérable et la question fondamentale du respect de ceux qui sont les plus faibles, que ce soit sur le plan économique, sur le plan culturel, ce sont des questions clés. Et je crois que les écologistes sont élus fondamentalement par rapport à des questions comme celle-là et que nous avons, avec la déclaration de M. Verhofstadt, tant dans son contenu que dans sa tonalité arrogante générale, nous avons les prémices de quelque chose qui va de nouveau consacrer un certain nombre de reculs très graves dans ces domaines-là. Je crois encore une fois que le fait d'avoir des compromis n'est pas en soi un problème en politique, c'est le fait d'avoir des reculs. Et évidemment, le fait de les présenter comme des compromis équilibrés. Vous savez, dans les compromis qui nous sont présentés aujourd'hui, on est dans des situations où les priorités des écologistes et des socialistes sont systématiquement méprisées.
Oui, d'ailleurs, est-ce qu'on peut encore parler de compromis quand il y a une expulsion massive et effectivement ethniquement dirigée d'un certain nombre de Tziganes, par exemple?
Je pense que c'est tout à fait inacceptable. C'est totalement inacceptable et je pense qu'on ne peut pas se borner à simplement laisser passer, laisser faire quand on est au gouvernement, publier un communiqué de presse distancié par rapport à la question et regrettant cette décision 2 ou 3 jours après et se joindre à une manifestation qui s'y oppose radicalement la semaine suivante. Ça n'est pas tenable, ça ne fait pas partie du travail noble qu'on attend d'un politique, ça ne fait pas partie du travail rigoureux intellectuellement parlant qu'on attend d'un démocrate. Et de ce point de vue-là, je pense que un certain nombre de démocrates dans notre pays, notamment les socialistes et les écologistes, mais aussi certainement les libéraux, sont en train de complètement oublier le sens du mandat qui leur a été confié. Ils ne sont pas ici pour le pouvoir, ils sont ici pour respecter un principe fondamental en démocratie, qui est un principe de délégation. Et ce principe-là, je trouve qu'on le bafoue de plus en plus souvent. Il ne suffit pas de dire après coup qu'on n'aurait pas voulu. Il ne suffit pas de dire après coup qu'on aurait voulu mais qu'on n'a pas pu. Il ne suffit pas de dire après coup que les rapports de force n'y étaient pas et que les conditions n'étaient pas suffisamment réunies. Ça n'est pas possible de continuer en tout cas à dire cela quand on est un parti au sein d'un gouvernement. Ça, c'est la culture d'opposition. Je pense que d'une certaine manière, un certain nombre de décisions prises ces derniers temps, tant par des socialistes que par des écologistes, relèvent davantage de la culture d'opposition, c'est-à-dire d'une culture, de mandataires relativement irresponsables, de mandataires qui ne sont pas aux affaires et donc qui communiquent en disant qu'ils ne sont pas satisfaits. Ça procède davantage de cette culture d'opposition que d'une culture de majorité, où il faut probablement beaucoup moins communiquer, mais être beaucoup plus présent au moment clé où se prennent les décisions.
Et d'ailleurs, on se retrouve un peu dans la même situation pour les écologistes et pour certains socialistes face aujourd'hui à l'après-11 septembre et la guerre qui continue d'être menée par les États-Unis. On voit les écologistes, par exemple, dans les manifestations.
C'est tout à fait évident. Et là, je trouve qu'on doit le regretter. Il y a un moment où il n'est pas possible de tenir à ce point un langage double. Ce n'est pas possible d'être au moment où les décisions se prennent, présent dans les lieux importants où elles se prennent, et de laisser passer, tout en disant après coup, on n'aurait pas voulu, on est inquiet, et en se joignant à une manifestation de paix, par exemple, qui propose la non-participation belge aux opérations militaires en cours. Ça n'est pas possible. Alors, on vous dira, du côté des socialistes et des écologistes, et même du côté des libéraux, Louis Michel va répéter ça dans les semaines qui viennent, oui, mais nous avons imposé un certain nombre de conditions. Je m'excuse. Je m'excuse. Quand j'achète une voiture auprès d'un garagiste, je ne lui dis pas je vous l'achète si le démarreur fonctionne et si les pneus sont gonflés. On vérifie d'abord si les pneus sont gonflés et si le démarreur fonctionne. Et si les pneus sont gonflés et si le démarreur fonctionne, on l'achète. Mais on ne l'achète pas si cette condition-là n'est pas remplie. Donc les conditions, elles doivent être préalables. Ça ne sert à rien de dire oui à condition que. Avec une vérification ultérieure des conditions. Dans une relation de partenariat normale comme celle qui aurait pu être éventuellement la relation transatlantique ou le travail au niveau onusien au moment de la préparation des décisions relatives à la riposte post-11 septembre, il était tout à fait insuffisant de dire vous pouvez y aller à condition que ce soit ciblé, à condition que le seul objectif soit les terroristes, à condition qu'un certain nombre de dérives, de dérapages n'interviennent pas, à condition que ça ne dure pas longtemps, à condition que, à condition que, à condition que. Ça n'est pas possible, en tout cas, de faire preuve d'une candeur pareille quand on a vécu les débuts de la campagne sur la guerre du Golfe. on est en train de vivre un remake absolument épouvantable de quelque chose qu'on n'a pas connu. Le politique responsable, il doit prévoir, mais il doit aussi avoir de la mémoire. Ça fait partie de sa responsabilité. Et de ce point de vue-là, je trouve qu'un certain nombre de responsables belges et européens ont fait preuve d'une amnésie incroyable. Vous savez, le discours sur les frappes chirurgicales, on l'a entendu, on le connaît. On sait aussi qu'une fois que l'armée américaine est sur un théâtre d'opération, pendant une série de journées et parfois de semaines, elle contrôle absolument toute l'information qui sort de ce terrain particulier d'opération. Et il est extrêmement difficile, de façon précise, objective et contradictoire, de vérifier si un certain nombre de conditions sont remplies ou pas. Et je pense que nous n'avions pas les garanties au moment de la décision belge de dire oui. Oui, mais de dire oui, nous n'avions pas les garanties que ces conditions seraient respectées. Encore une fois, on a acheté la voiture et maintenant on se rend compte que les pneus étaient crevés.
Donc là, la goutte d'eau a fait déborder le vase. Vous avez conclu votre intervention en disant « Voilà pourquoi, monsieur le ministre, je souhaite formellement vous signaler aujourd'hui que je quitte votre majorité ». Comment est-ce que vous envisagez ça concrètement, de quitter la majorité? Ça veut dire que vous quittez le Parlement ou vous quittez Écolo ou vous restez dans les deux mais sans plus soutenir la majorité? Il y a eu un grand flou là-dessus et les médias ont interprété ça de façon très diverse. Comment est-ce que vous, vous l'interpréteriez?
Je suis élu sur le programme d'Écolo et je vais continuer avec un acharnement digne de celui que j'ai toujours montré dans tous les dossiers et sur toutes les questions sur lesquelles j'ai travaillé depuis maintenant 6 ans. Je vais continuer à le faire avec la même grille de référence qui est le programme sur lequel j'ai été élu, c'est-à-dire le programme d'Écolo. Il n'est pas question, et il n'a jamais été question pour moi, de présenter ma démission, ni du Parlement, ni d'Écolo.
On pourrait considérer votre intervention quelque part aussi comme un rappel à l'ordre à Écolo. Et en réponse, on trouve sur le site d'Écolo des rappels d'Écolo à Vincent de Crolly, dans lesquels on vous taxe de manque de déontologie et d'individualisme, etc. Et on conclut en disant il revient à Vincent de Crolly et à Écolo d'en tirer les conclusions en termes de participation à ses travaux, etc. Enfin, ça sent un peu l'eau dans le gaz. Comment est-ce que vous ressentez ça de la part du parti?
Je pense que les conditions sont réunies pour qu'on puisse revenir à la question de savoir si notre programme est compatible avec la poursuite de cette expérience. Et j'espère que dans ce domaine-là, comme dans plusieurs autres dont nous venons de parler, nous ne nous acheminons pas vers une série de décisions extrêmement graves avec, pendant la campagne électorale, des partis de gauche qui diront qu'ils n'ont pas voulu ça.
Pour terminer, vous reprochiez dans votre intervention au système Verhofstadt, disons, mais c'est une évolution qui date depuis plus longtemps que ça, que finalement le contrôle des parlementaires, des ministres par les parlementaires est devenu le contraire, c'est plutôt le contrôle des parlementaires par les ministres. Est-ce que vous pensez sincèrement, surtout avec des démarches parfois assez individuelles ou en tout cas qui trouvent peu d'écho au sein du Parlement, qu'il y a encore moyen de réaliser des choses, des avancées au Parlement?
Ah, évidemment, sinon je ne m'y serais pas présenté et je n'y serais pas aujourd'hui.
Pourtant, c'est un instrument démocratique et visiblement, dès qu'on donne son avis profond, on se fait taper sur les doigts quand même.
Oui, mais faire de la politique, c'est se faire taper sur les doigts. On ne doit pas faire de la politique pour se faire des amis. Je pense qu'on doit faire de la politique pour porter la parole d'autres personnes au plus haut niveau de pouvoir et le porter avec le maximum de conviction, d'efficacité. Et parfois, ça nécessite de monter au combat. C'est ce que je suis. Je vais rester ce que j'ai toujours été, c'est-à-dire un parlementaire écologiste, un parlementaire élu sur un programme qui est celui d'Écolo et un parlementaire de combat, ce qui, à mon avis, est tout à fait synonyme et pléonastique. Je vais rester cela et dans les mois qui viennent, je vais continuer un travail pour que demain la Constitution belge ne soit plus, si j'ose dire, le cul par-dessus tête. Vous savez, M. Verhofstadt, du point de vue du respect des règles fondamentales de fonctionnement démocratique qui sont définies par notre Constitution, fait probablement pire que tous ses prédécesseurs au sens où il met la Constitution à l'envers. La Constitution, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « le Parlement contrôle le gouvernement ». Eh bien, dans toutes les situations importantes, sur tous les dossiers importants Depuis 2 ans, M. Verhofstadt, qui a abreuvé l'opinion publique d'un discours incroyable sur la nouvelle culture politique, a fait exactement le contraire. Et cette majorité arc-en-ciel est une majorité tout à fait anti-parlementaire. C'est une majorité qui conçoit son travail comme un travail d'abord hiérarchisé, un travail d'imposition au Parlement d'un certain nombre d'avancées, un travail d'imposition au Parlement d'un certain nombre de reculs, et un travail où finalement le vrai débat démocratique, celui qui devrait palpiter au quotidien au cœur de cette institution, est en fait impossible du fait d'une série de verrouillages qui tiennent à des mécanismes invisibles mais extraordinairement puissants. Moi, je veux remettre la Constitution sur ses deux jambes, et je pense que ça va faire partie d'une des priorités de mon travail parlementaire qui va se poursuivre dans les semaines et les mois qui viennent.
Mais est-ce qu'on tient compte de votre avis? Parce qu'à l'RTBF, le jour de votre intervention, ça fait une ligne dans le JT, c'était Vincent Decredy quitte la majorité, mais ça ne remet pas du tout en cause cette majorité. Donc ça veut dire le jeu majorité contre opposition continue et on va vous laisser de côté. Vous n'avez pas peur de ça?
Je pense qu'il faut être réaliste. Je l'ai dit moi-même au gouvernement, à M. Verhofstadt, ne vous inquiétez pas. La défection d'un député, si elle n'est pas suivie d'autres de votre majorité, ne va pas porter à conséquence. La défection même d'un député écolo ne va pas porter à conséquence, puisqu'arithmétiquement parlant, les écologistes francophones ne sont pas nécessaires à cette majorité. Je veux dire qu'un projet pourrait être imbuvable du point de vue d'écolo, qu'il passerait encore. Parce qu'il y a un certain nombre d'autres parlementaires, d'autres groupes politiques qui seraient éventuellement prêts, eux, à voter ces reculs-là. Donc le poids arithmétique des colos dans cette majorité est extrêmement limité, voire nul, et en tout cas il va en décroissant de jour en jour. Ceci dit, je pense aussi que la petite voix de quelques parlementaires, parce que moi j'espère que je ne resterai pas seul, qui sont capables non seulement de communiquer et de dire qu'ils ne sont pas d'accord, mais de voter qu'ils ne sont pas d'accord, pourra peut-être être demain une authentique contribution à un véritable renouveau politique. Et de ce point de vue-là, l'essentiel n'est pas d'avoir des alliés au Parlement. L'essentiel est d'avoir des alliés dans la société. L'essentiel est d'être à la juste jonction entre les institutions et ceux qui nous ont délégués pour y siéger. Et de ce point de vue-là, évidemment, ce qui va se passer dans les prochains mois pour moi est extrêmement important. Je vais faire un travail de passerelle entre une série de luttes, entre une série de mouvements citoyens et sociaux qui sont en train de se développer. Ce sera une expérimentation citoyenne, sociale et politique extrêmement intéressante et importante. Je pense que ce ne sera pas intéressant que pour moi et que de ce point de vue-là, peut-être que plus tard, cela pourra aussi amener un certain nombre de parlementaires à se reposer la question en conscience de ce que ça veut dire être élu au Parlement en Belgique sur un programme politique.
Une fin, même alter ego, mais si vous ne vous pouvez décidément pas vous passer de cette émission, rendez-vous pour les rediffusions vendredi sur Radio Campus à 14h, lundi matin à 10h sur Radio Panique, et puis aussi sur le site internet www.multimania.com. Le long morceau de musique que vous avez entendu tout à l'heure au milieu de cette émission était interprété par Can. Il s'agit de Mother Sky, c'est la bande originale du film Deep End, et ça se trouve logiquement sur un CD intitulé Soundtracks. Voilà, merci de rester fidèle à cette émission. À la semaine prochaine.